Bonjour, je m'appelle Inès et je suis en 4e E au collège Irène Joliot-Curie. Pouvez-vous répondre à nos questions sur le métier de médiatrice scientifique ?
Oui, bien sûr, avec plaisir.
En quoi consiste ce métier ?
Alors ici au Sicorium, on a plusieurs casquettes, mais si on doit tout rassembler en une mission, c'est sensibiliser des plus petits aux plus grands à l'environnement marin, à la biologie marine et aux animaux de la mer de manière générale.
Bonjour, je m'appelle Elsa, je suis au collège Irène Joliot-Curie. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Parce que j'aime partager mes connaissances avec tout le monde et que je pense que lorsque les gens connaissent un petit peu mieux les animaux marins pour lesquels il faut peut-être un peu plonger ou qui ne sont pas forcément très proches de nous au quotidien, une fois qu'ils les ont découverts, ils voient la merveille qu'on a sous les océans et ça leur donne envie de les protéger.
Quelles qualités faut-il avoir pour exercer ce métier ?
Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler dans un micro, il ne faut pas avoir peur de parler aux gens de manière générale, comme là vous avez vu devant pas mal de monde. C'est toujours bien d'avoir plein de petits exemples qui font choc, qui sont pertinents, qui vont un peu marquer les esprits, plutôt que d'essayer de tout dire à chaque fois, parce que c'est trop d'informations.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ?
Le contact avec autant les tout-petits qui vont avoir des réactions très différentes que des gens qui ont peut-être déjà plongé, qui ont un regard un peu plus expert. À chaque fois, chaque visiteur nous fait un retour différent, chaque enfant nous montre quelque chose de nouveau et ça nous enrichit aussi en retour.
Est-ce que vous avez un contact avec les animaux ?
Non, pas directement. Nous, on s'occupe pas des animaux. Ce sont des formations spécifiques. Donc, on peut aller plus proche que le public parce qu'on est en équipe. On peut s'approcher grâce aux soigneurs. Mais ce n'est pas dans notre mission, par contre, de le faire.
Qu'est-ce que sont les côtés négatifs de ce métier ?
La fatigue peut-être d'avoir beaucoup de scolaires qui vont pouvoir passer entre nos mains. Alors on est toujours ravis de le faire, mais c'est ça qui va peut-être être un petit peu plus difficile à gérer, de garder sa voix toute la journée et d'être encore un peu en forme à la fin de toutes ces sessions.
Quel est le parcours et combien d'années d'études faut-il faire pour exercer ce métier ?
Et aujourd'hui, il existe des masters spécialisés en médiation scientifique, mais un petit peu tout dans le service, on a des parcours différents qui ne sont pas forcément passés par ce master. Donc en soi, si vous connaissez un peu l'environnement marin ou si vous venez d'une licence ou d'un master en biologie, en océanographie, tout ça, ça vous donne des connaissances qui ensuite sont utiles pour les transmettre. Mais peut-être qu'avant tout, il faut avoir envie de transmettre et être à l'aise avec les gens. Et après, vos connaissances, elles viendront et vous arriverez à les transmettre.
Peut-on évoluer dans ce métier ?
Oui, on peut passer responsable de service. Donc, on peut avoir des personnes qui sont en animation scientifique à notre charge. Donc les animateurs scientifiques, eux, en général, ils savent parler déjà au public, ils savent transmettre, mais on leur donne le message qu'on souhaite délivrer. On va les former, par exemple, sur le nourrissage et l'entraînement des otaries. Et les médiateurs, ils vont plus avoir un rôle de construction d'outils. On va réfléchir à est-ce qu'on peut créer des jeux, etc. Et ensuite, on peut passer responsable de service.
Quelle est votre journée type ?
Ah, il n'y a pas de journée type parce que ça change tout au long de l'année. Donc là, par exemple, en période de fin d'année scolaire, on reçoit toute la journée des écoles en visite libre ou en visite guidée. Dans la période plutôt de septembre-octobre, on va aller beaucoup sur des stands, sur des salons, des festivals pour faire de la sensibilisation auprès du grand public. Pendant l'hiver ou les fermetures de l'aquarium, on va beaucoup travailler sur nos outils de médiation, donc les jeux, qu'est-ce qu'on peut développer qu'est-ce qu'on peut développer de nouveau pour parler de sujets de l'environnement marin. Et au printemps, on donne, et déjà un petit peu à l'automne et au printemps, on donne des cours, donne des interventions en classe. Donc, on va directement dans les écoles avec les scolaires. Donc, ça change toute l'année. Pardon.
Est-ce que vous faites des présentations dans les lieux scolaires ?
Dans les milieux scolaires, c'était ça la question ? Oui. Donc il y a des interventions en classe, donc c'est des cours en classe où c'est les profs qui choisissent les thématiques. Et à la fin de l'année, après ces trois visites, c'est la classe qui nous rend visite au Sicorium, donc c'est un échange entre les deux. Et c'est plutôt pour les élémentaires, donc de CE1 à CM2, un petit peu CP aussi, mais pas les maternelles.
Merci pour vos réponses. Au revoir.
Pardon, tu m'as dit quoi ?
Merci pour vos réponses. Au revoir.
Merci à vous.
Bonjour, je m'appelle Lisa du collège Irène Joliot-Curie. J'aimerais vous poser des questions à propos de votre métier. En quoi consiste le métier de médiateur scientifique ?
Alors, le métier de médiateur ou médiatrice scientifique, c'est de faire de la sensibilisation sur des sujets scientifiques. Donc ici, au Sicorium, on sensibilise à des sujets de l'environnement marin.
Bonjour, je m'appelle Campalicia, je suis au collège de Jules Curie. Je voulais vous poser une question. Quelle étude faut-il pour exercer ce métier ?
Aujourd'hui, il existe des masters en médiation scientifique. Ça ne vous préparera pas forcément un sujet, puisque ça peut être aussi en botanique, sur tous les sujets scientifiques ou même de l'industrie et de la technique. Mais ça dépend si, par exemple, vous voulez vraiment faire de la médiation scientifique en environnement marin, si vous avez fait des études en biologie marine, si vous êtes plongeur professionnel, si vous êtes océanographe et que vous avez la facilité de parler au public, vous pouvez totalement être médiateur scientifique.
Bonjour, moi je m'appelle Loane, je suis en 4e B au collège d'Aigues-Mortes. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
J'aime partager ce que je sais et je me rends compte que plus les gens connaissent les animaux marins et ce qu'il y a sous la mer, plus ils s'en émerveillent et ça leur donne envie de les protéger. C'est la meilleure manière de mobiliser les citoyens pour la protection des océans.
Merci.
Rebonjour. C'est peut-être une question un peu indiscrète, mais combien d'argent gagnez-vous par mois ?
Ici, je gagne environ 1 500 € par mois, net.
Je ne sais pas le plus fort. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier et pourquoi ?
C'est un métier qui est très créatif et où il n'y a pas de journée type. On va pouvoir développer plein d'outils, des jeux sur des nouvelles thématiques qu'on va vouloir aborder avec le public. Et toute l'année, le rythme change. À la fin de l'année, on a les scolaires. En début d'année scolaire, on va plutôt dans les classes, nous. Donc ça change toute l'année et ça, c'est super agréable.
Qu'est-ce qui vous plaît le moins dans votre métier ?
Le fait d'avoir tellement d'idées qu'on manque de temps pour pouvoir les réaliser. Concrètement, on a plein de projets qu'on ne peut pas faire alors qu'on a très envie de les faire.
Est-ce que vous pensez que votre métier est important pour le Sicorium ?
Eh bien oui, je pense que ça fait le lien entre les animaux qui sont présentés et le public. Ça donne un sens à l'existence des aquariums. Ça donne une voix en fait aux animaux.
Quels sont les avantages et les inconvénients de votre profession ?
Les avantages, c'est que vous rencontrez plein de gens tout le temps, des tout petits enfants, des gens qui sont des plongeurs professionnels. Et les inconvénients, il faut peut-être être très très adaptable par rapport à ça.
Depuis combien de temps souhaitez-vous exercer ce métier ?
J'étais médiatrice culturelle avant, donc plutôt dans les musées, et je suis passée plongeuse professionnelle, puis ensuite j'ai fait le lien. Donc ça fait quelques années que j'ai nourri ce projet qui a plutôt bien abouti.
Est-ce que vos conditions de travail vous conviennent, horaire ou ambiance ?
Oui, c'est quand même pratique au fil de l'année de pouvoir travailler sur du lundi au vendredi. Alors bien sûr, comme on accueille des touristes et qu'on est une structure touristique, il y a des week-ends où on travaille, mais il y a un roulement. Donc c'est un week-end de temps en temps. Et ça, c'est plutôt agréable par rapport à d'autres métiers où on impose d'être là quasiment tous les week-ends.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Bonjour, alors aujourd'hui on va vous poser des questions sur votre métier.
Oui.
Alors la première question, c'est en quoi consiste exactement votre métier ?
Alors moi je suis à la boutique, mais je suis aussi normalement à l'accueil, à la caisse, ça dépend des jours. Souvent ce que je fais, c'est que quand je suis à la caisse, j'accueille les gens, je vends les billets, je réponds aux questions principalement, vu qu'on est les premières personnes qui croisent. J'accueille les groupes également. Et quand je suis en boutique, je fais de la vente boutique, je conseille, je fais de la mise en rayon, je reçois les commandes, je fais de la gestion de livraison. Et voilà, c'est à peu près tout.
Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous n'aimez pas faire dans votre métier ?
Des fois, quand on reçoit des grosses livraisons, c'est un peu compliqué parce qu'on a beaucoup à gérer en même temps. Surtout qu'on doit faire ça plus en parallèle, surveiller que tout se passe bien. Mais sinon, non, il n'y a pas forcément quelque chose qui me dérange plus que ça. Ça va.
À l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimez dans votre métier ?
Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les clients ils sont gentils, qu'ils sont intéressés, qu'ils posent des questions, j'aime bien répondre. Mais voilà, c'est agréable.
Et je dois dire quoi ? Il y a-t-il des grades dans votre métier ?
Alors oui, c'est pas beaucoup, mais il y a quand même une certaine hiérarchie. Donc moi, je suis en CDD, j'ai des collègues qui sont en CDI, qui ont un peu plus de responsabilités. Et au-dessus de nous, on a encore d'autres collègues qui sont en CDI, qui, elles, gèrent tout ce qui va être gestion de stock, gestion de commandes, et qui organisent justement aussi les livraisons, etc. Donc, qui sont un peu plus haut gradés.
Est-ce un choix de faire ce métier ?
Honnêtement, non. Pas pour ma part, en tout cas, parce que moi, j'ai un master en architecture que j'ai eu l'année dernière. Donc j'ai eu mon master en juin 2024, c'était mon job étudiant à l'origine, donc j'étais en contrat étudiant. Après sortie d'école, moi il n'y avait pas beaucoup d'embauches dans mon domaine, donc je suis venue ici pour faire la saison, et au fur et à mesure ils m'ont embauchée. Voilà. Et après là, normalement en septembre, je repars en architecture.
Pouvez-vous nous raconter une anecdote ou un bon souvenir que vous avez eu durant ce métier ?
Alors malheureusement, on retient plutôt les mauvais que les bons. Mais en bon souvenir, non, c'est ce qu'il y a, c'est surtout la cohésion qu'on a au sein de l'équipe. Où nous, on est très proches de nos équipes, on est tous amis, on est à peu près tous au même âge. Donc c'est agréable de venir travailler avec des copains, on va dire. Et après, ouais, c'est plus au niveau de clients, quoi. Ils vont dire que par exemple, ils ont adoré la visite, ils ont adoré ça. Même des fois, on a des pourboires, c'est un bon souvenir. Mais sinon, non, il n'y a pas quelque chose en particulier qui a fait que...
Quelles sont les principales qualités pour ce travail ?
Alors, il faut être à l'aise avec les gens, il faut être organisé. Faut aussi, l'été, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, donc il faut savoir gérer son stress, gérer son calme. Après, oui, tout ce qui est relationnel, client, être à l'aise, avoir une bonne diction... Et être à l'écoute aussi de certains clients quand ils cherchent tel ou tel produit, savoir ce qui correspond à leur demande.
Du coup, est-ce que vous avez un mauvais souvenir en particulier ?
Alors juste hier, on a un petit qui a fait pipi dans la boutique. Voilà. Après, des fois aussi, vu qu'on a les sanitaires aussi à côté, on a des gens qui... font mal leurs besoins, qui ramènent tous leurs besoins dans la boutique, etc. Et après, quotidiennement, ce sont des boules à neige qui se cassent, où on doit ramasser avec du verre partout, et on ne nous prévient pas. Mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose à part ça.
Et pour finir, combien est le salaire moyen ?
Alors nous, quand on est en boutique et caisse, on est généralement payé au SMIC. Donc moi, je suis à 1390 mensuels. Après, ça peut varier, pouvoir un peu plus, mais généralement, c'est autour du SMIC.
Merci, merci beaucoup.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter votre métier ?
Alors, bonjour, moi c'est Laura, je suis technicienne aquariologiste et plongeuse au sein du Aquarium. Donc ma mission est de m'occuper des poissons, de leur bien-être, de leur santé. Donc je vais participer au nourrissage, mais également aux paramètres physico-chimiques de l'eau, donc comme la température, la salinité, donc la teneur en sel qu'il y a dans notre eau, mais aussi de la filtration.
Quelles études ou formations faut-il faire pour accéder à votre métier ?
Alors, il y a plusieurs formations qu'on peut faire pour accéder à ce métier. Moi, j'ai fait un DUST, donc un Bac plus 2, technicien de la mer et du littoral.
Combien votre métier vous rapporte-t-il par mois ?
C'est un métier qui ne nous rapporte pas énorme, c'est plus un métier de passion qu'autre chose. De quoi ? À 1500 euros net par mois, à peu près.
Pourquoi faites-vous ce métier par passion ?
Oui, comme je le disais avant, du coup, c'est pas un métier qu'on va faire pour gagner de l'argent et devenir riche, on va dire. C'est plus un métier vraiment par passion de la faune et de la flore méditerranéenne et marine.
Aimez-vous votre métier, l'environnement et le lieu de travail ?
Oui.
À quoi servez-vous au sein du Aquarium ?
Comme je le disais avant, au sein du Aquarium, notre mission va être de s'occuper des poissons et de leur santé, de les nourrir, de s'assurer que tout va bien et des paramètres de l'eau.
Combien de temps aurez-vous travaillé au Aquarium ?
Combien de temps je travaille ici ? Ça fait 8 ans maintenant que je travaille au sein du Aquarium.
Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions.
Et merci à vous.
Bonjour, merci pour votre présence. On aurait quelques questions à vous poser sur le métier d'aquariologiste. Pouvez-vous nous expliquer le métier ?
Bonjour, du coup moi je m'appelle Amélie, je suis technicienne aquario. Mon métier consiste du coup à s'occuper des animaux, les nourrir, les soigner s'il y a besoin, que leur bassin soit propre et on fait aussi de l'entraînement avec les requins.
Avec quoi vous nettoyez les aquariums ?
Du coup, on est tous plongeurs dans l'équipe, donc on y va en plongée, donc avec une éponge pour faire la vitre. Ensuite, on peut nettoyer aussi le sable, les décors, remettre des décors qui sont tombés, tout ça.
Bonjour, je m'appelle Nel, je suis 4e E du collège Irène de l'Ecurie. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous enlevez les requins quand vous nettoyez l'aquarium ?
Non, du coup, on plonge avec les requins. Il n'y a aucun animal qu'on enlève. On va dans leur milieu et voilà, tout se passe bien.
Bonjour, je m'appelle Darrel, je suis du collège Irène Gélu-Curie en 4e E. Combien de temps ça vous prend pour nettoyer les aquariums ?
Alors, ça dépend. Ça dépend ce qu'il y a à faire dedans, si c'est juste les vitres ou s'il y a un décor à remettre. Mais sinon, on essaye de plonger au moins deux fois par semaine, une après-midi, donc on va dire deux après-midi, pour faire à peu près tous les bassins.
Combien de fois vous les nettoyez par année ?
Alors par an, je ne saurais pas dire chaque bassin, mais toutes les semaines, il y a quelqu'un de désigné en fait pour plonger. Et on nettoie ceux qui sont sales. Il y en a des fois et on peut ne pas les faire pendant deux semaines et d'autres, on est obligé de les faire toutes les semaines.
Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Quelle étude avez-vous fait pour devenir ?
Du coup, je fais ce métier par passion, parce que j'adore les animaux marins. Et j'ai fait une formation sur 7 qui s'appelle le DU d'aquariologie, aquaculture et aquaponie. Donc c'est une formation en 2 ans maintenant sur 7. Et donc il y a une partie stage et une partie cours.
Quel est le salaire moyen de ce métier ?
Alors le salaire, je pense qu'il va dépendre aussi des aquariums, mais nous, on est à peu près à 1500 euros par mois.
Quelle est votre journée type ?
Une journée type, du coup, quand on arrive le matin, on vérifie que tout fonctionne et que tous les animaux vont bien. Donc, on fait un petit tour des bassins, donc devant et derrière, voir si les pompes, tout ça, ça fonctionne. Ensuite, eh ben, y a du nourrissage, il y a de l'entretien, il y a des analyses d'eau. Il y a un petit peu d'entraînement aussi avec les requins. Et l'après-midi, il y a encore d'autres nourrissages en fonction des bacs. Et le soir, en partant, pareil, on vérifie que tout vient bien avant de partir.
Est-ce que vous entrez dans les aquariums pour les nettoyer ou faites-vous cela depuis l'extérieur ?
On fait les deux. Il y a des petits bacs, suivant s'ils sont beaucoup sales ou pas. On peut le faire de l'extérieur et sinon après on plonge dedans.
C'est où ? Quel type de produits utilisez-vous ? Sont-ils dangereux pour les poissons ?
Du coup on n'utilise pas de produits. On y va avec une éponge pour frotter les vitres.
C'est terminé ?
On a fini...
Merci pour votre présence. Merci. Et pour votre écoute.
Bonjour, je m'appelle Tom.
Bonjour, je m'appelle Robin. On aurait quelques questions. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Bonjour, alors je m'appelle Jérémy Nemoz et j'ai toujours été passionné par les animaux marins. Je voulais être chercheur et en fait je me suis rendu compte que travailler dans un laboratoire, c'était pas pour moi. Donc je me suis reconverti et je suis devenu soigneur mammifère marin.
Quelles sont les qualités requises pour exercer le métier de soigneur ?
Alors la principale qualité, c'est de savoir se remettre en question. Tous les jours sont différents, les animaux sont différents, et il faut toujours essayer de réfléchir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut de nos animaux.
Est-ce que les soigneurs nettoient aussi les bassins ?
Alors, les soigneurs nettoient les bassins, on nettoie avec des balais tous les matins, et puis on plonge aussi deux fois par semaine pour nettoyer les vitres.
Quelles sont les études requises pour exercer le métier de soigneur ?
Alors moi, comme je voulais être chercheur, j'ai fait un bac plus 5 en biologie, mais ça ne sert pas forcément à être soigneur. On peut faire une école juste après le bac, donc en gros avec un bac plus 1.
Quelle est votre journée type ?
Alors il n'y en a pas vraiment de journée type, c'est ça qui est intéressant. Alors du coup, le matin, on sait à quelle heure on arrive à peu près, sauf s'il y a une urgence. On prépare la nourriture pour les animaux et ensuite dans la journée, on va leur distribuer. À chaque fois qu'on va aller distribuer la nourriture, on va en profiter pour faire de l'entraînement avec nos animaux. Après, il y a des journées sur lesquelles il faudra faire aussi de la plongée.
Quel est le salaire moyen d'un soigneur animalier ?
C'est en gros autour de 1400-1500 euros par mois. Ce n'est pas des métiers qui gagnent beaucoup d'argent, mais par contre, c'est des métiers passion, donc on a d'autres avantages.
Comment les animaux sont anesthésiés ?
Alors, c'est particulier pour les mammifères marins. Ils supportent très mal l'anesthésie, pour la simple et bonne raison que ce sont des animaux qui sont adaptés à faire des longues apnées. Et donc, si on les anesthésiait, ils se mettraient en apnée et ils ne respirent pas tout seuls. D'accord ? Donc, l'anesthésie, c'est quelque chose qu'on fait chimiquement. On fait une piqûre et ça les endort. Par contre, on évite au maximum de faire des anesthésies. On va en faire que si l'animal est condamné si on ne la fait pas, parce qu'on a beaucoup de risques qui ne respire pas pendant l'opération. Du coup, on va être obligé de respirer à sa place. Ça veut dire qu'on va passer un tuyau dans sa trachée jusqu'à ses poumons et on va ballonner. Donc, on a des ballons qu'on presse pendant tout le temps de l'opération. Des fois, ça prend 4, 5, 6 heures. Et donc, on évite au maximum de faire des anesthésies. C'est pour ça qu'on fait de l'entraînement. Du coup, pour tous les soins courants, une prise de sang, une radio, une échographie, l'animal, il est volontaire et il vient le faire tout seul. On n'a pas besoin de l'anesthésier.
Combien de temps les animaux peuvent rester en dehors de l'eau durant les soins et les opérations ?
Ils peuvent rester en dehors de l'eau tout le temps qu'il faut. Ce sont des animaux qui ne sont pas uniquement inféodés au milieu marin, c'est des animaux qui vivent très longtemps sur la terre, ne serait-ce qu'en période de reproduction, où les femelles vont rester quelques mois sur la plage. Du coup, ils n'ont pas besoin d'être dans l'eau en permanence.
Comment les animaux sont récupérés en mer?
Alors, tous nos mammifères marins sont nés en captivité. Donc avant, leurs parents, historiquement, ont été prélevés dans la nature. Et depuis plusieurs générations, on fait des échanges avec des aquariums ou avec des parcs zoologiques. Tous sont nés en captivité.
Ok, merci.
De rien.
Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis en 4e et aujourd'hui on va vous poser des questions sur votre ancien métier de soigneur. Où soignez-vous les animaux marins?
Alors, je soigne les animaux marins au sein du Sicorium au Gros du Roi.
Est-ce que vous avez un lieu précis dans le Sicorium?
Alors, sur le pôle mammifère marin, on fait les soins soit devant le public, soit on peut rentrer nos animaux dans des pièces pour qu'ils soient un peu à l'isolement.
Pourquoi avoir fait soigneur?
Parce que du coup, je voulais être chercheur et je me suis rendu compte que je n'étais pas assez sur le terrain. Et donc, je me suis reconverti et je suis devenu soigneur.
Depuis quand faites-vous soigneur?
J'ai commencé en 2007, donc ça fait un petit moment déjà.
Est-ce que certains animaux sont plus durs à soigner que d'autres?
Oui, chaque animal a des particularités. C'est comme pour des élèves, c'est la même chose. Donc il y en a qui vont être plus forts en sport, d'autres qui vont être plus attentifs pour apprendre des nouvelles choses. Il y en a qui vont être craintifs, d'autres qui vont être au contraire très sûrs d'eux. Certains pourraient même être agressifs. Donc il y a des individus qui sont très différents.
Est-ce que vous aurez des exemples d'animaux à donner selon les catégories que vous avez citées?
Pas spécialement, parce que ça va vraiment dépendre du jour à lequel on va aller travailler. Pour faire un truc très schématisé, mais encore une fois, ça dépend vraiment de chaque individu. Une otarie est souvent plus sûre d'elle. C'est des animaux qui sont plus gros. Qu'un phoque va être plus considéré dans la nature comme une proie et du coup va être plus craintif. Il va falloir plus créer de relations avec un phoque pour pouvoir lui apprendre des choses, qu'une otarie, elle est un peu plus sûre d'elle, donc c'est un peu plus facile.
Quels animaux marins demandent le plus de soins?
Ils demandent tous d'avoir des soins particuliers et de l'attention. On va dire que les mammifères, du point de vue cérébral en tout cas, ont besoin de plus être stimulés qu'un poisson ou qu'une tortue. Et donc ceux sur lesquels on va le plus accentuer notre travail, ça va être les mammifères marins.
Merci, je vais vous passer à mon collègue Marcel.
Bonjour, je m'appelle Marcel et moi aussi j'ai quelques questions pour vous. Faites-vous soigneur seulement au Sicorium ou dans d'autres instituts marins?
Non, je travaille uniquement au Sicorium.
Et quels sont les inconvénients de ce métier en tant que soigneur?
Alors, on travaille avec des animaux, donc des fois tout va bien, et puis il y a des jours où ça va un peu moins bien. Donc il faut gérer des situations qui parfois sont problématiques. Ça peut être des maladies, ça peut être des décès, ça peut être des agressions entre les animaux. Donc il y a beaucoup de pression, on est là avec des animaux qui sont en captivité. La moindre des choses, c'est de s'en occuper au mieux. Et donc, du coup, il faut que chaque jour, on soit disponible et attentif pour le bien-être de nos animaux.
Et quels sont, du coup, les avantages de ce métier?
Les avantages, c'est qu'il n'y a pas un seul jour qui se ressemble et qu'on en apprend tous les jours. Moi, j'avais besoin de travailler dehors, d'être actif et dynamique. Et du coup, c'est un métier qui me convient parfaitement pour ça.
Et est-ce qu'il y a des échelons en tant que soigneur, et si oui, lesquels?
Alors, il n'y a pas d'échelon à proprement parler. Il y a certaines structures qui vont avoir des responsables animaliers, qui sont l'échelon supérieur. Mais par contre, le responsable animalier n'a plus vraiment un rôle de soigneur. Il passe au-dessus, il va gérer ses équipes de soigneurs. Mais si on veut travailler auprès des animaux, il y a un seul échelon et c'est soigneur animalier. Bien sûr, on apprend et on devient meilleur avec le temps.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Juste avant, j'ai une question qui m'est survenue dans la tête à la fin d'une de vos réponses. Les animaux qui décèdent pour n'importe quelle raison, qu'est-ce que vous en faisiez en fait? Du coup, vous en faites, vous les enterrez, vous faites autre chose. Qu'est-ce que vous en faites?
Alors, en parc zoologique, comme en aquarium, il est impératif de connaître les causes de la mort d'un animal. D'accord? Donc, quand un animal décède, soit on sait pertinemment de quoi il est mort, soit on fait une autopsie pour connaître exactement les causes de la mort. Sur les mammifères, c'est autopsie systématique de toute façon, parce qu'on va pouvoir apprendre à gérer des problèmes qu'on n'aurait pas vus et qui vont servir aux animaux qui sont toujours vivants. D'accord? Donc on fait une autopsie, on fait des prélèvements, on fait des analyses, et derrière l'animal part à l'écarisseur.
D'accord, merci pour vos réponses.